Donc, je pense qu'on reviendra sur la question de, ce que c'est une intervention politique. Mais, disons, le problème pour nous, ça a été, une fois dit ça, une fois s'être mis dans cette perspective, ce qu'on a eu l'impression de rencontrer pour notre part, et qu'on a essayé de désigner comme impasse, même si le terme fait beaucoup discussion et il y a beaucoup d'objections nous sont faites sur le diagnostic des impasses. Dans le livre, hein, il y a une petite partie qui s'appelle comme ça. Bon, donc ça aussi, on va sans doute en discuter. Et en tout cas, ce qui nous semble aujourd'hui important, c'est de se dégager. Donc une fois dit qu'on veut donner un certain primat à l'intervention, pour autant, il y a le constat d'un affaiblissement de la disposition activiste, c'est-à-dire de cette disposition dans laquelle on s'immerge dans une lutte ponctuelle, on s'immerge dans une lutte spécialisée, ou on s'immerge dans un mouvement. Bon, pour en ressortir, pour en ressortir, alors soit épuisé, comme on disait, soit disons avec des perspectives qui n'ont pas forcément été clarifiées, avec une retombée, avec bon, tous les schémas qu'on a pu un peu dire hier sur, disons, quand un événement, quand on est collé, immergé dans un événement, quand on est collé, immergé dans une lutte spécifique. C'est difficile de se dégager d'une sorte de temporalité de l'urgence. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait déjà en tout cas ce qu'on cherche, c'est une possibilité d'intervention, un espace d'intervention qui ne soit pas collé à l'urgence activiste, disons. Donc qui ne soit pas collé à l'urgence de telle lutte spécifique et de ce que ça entraîne comme obligation en termes de responsabilité politique, si on veut, par exemple, dans le travail autour des pôles emploi et l'obligation à être dans, essayer de suivre les dossiers, essayer d'être conséquent sur un certain suivi, pareil pour les luttes autour des sans-papiers, etc. Donc, un espace d'intervention qui soit dégagé de l'urgence activiste, qui soit dégagé des grands événements qui apparaissent, qui sont sous les projecteurs à un moment donné, puis bon, qui, lorsqu'ils ne sont plus là, ben reste. Qu'est-ce qui reste? Alors qu'est-ce qui reste? En général, il y a un ensemble de gens qui participent à une lutte et qui se retrouvent et qui effectivement tracent des continuités une fois une lutte, un événement, un mouvement qui continue entre eux à se voir et à construire quelque chose qui est plus ou moins solide. Mais il n'y a plus le travail de composition politique qui était à l'œuvre, dans le meilleur des cas, dans un mouvement. Je pense au mouvement des retraites, où il y a eu, en tout cas à Rennes, il y a eu des initiatives qui étaient fortes pour essayer de faire un travail de composition pour que des gens d'horizons assez différents, bon, qui étaient soit salariés ou précaires ou chômeurs ou complètement décrochés de ces identités-là, puissent parvenir à se parler, à faire des actions coordonnées, etc. Bon, ce travail de composition, lorsque les luttes, les mouvements disparaissent, ne se perpétue pas. Et donc il y a une forme, ce qui était épinglé hier, de façon bon, un peu polémique, mais une façon de rester dans l'entre-soi de ceux qui sont un peu en accord et qui donc construisent pour eux-mêmes quelque chose, même s'ils tentent très sincèrement de faire un peu de travail au-delà de leur groupe, mais qui en général peuvent pas vraiment faire ce travail de composition que permettent juste les mouvements ponctuels ou les luttes ponctuelles. Donc en fait, il y a dans la proposition qu'on fait, il y a cette visée qui serait celle de construire un espace d'intervention qui à nos yeux n'existe pas, qui n'existe pas pour enfin, en tout cas, qu'on ne voit pas exister comme tel jusqu'ici, dans la mesure où on a l'impression que tout ce qui est possible et qui est important et qu'il ne s'agit pas de déserter en termes de luttes qui existent aujourd'hui, c'est toujours des luttes qui viennent en réponse à des initiatives qui sont celles de l'ennemi. Donc la première exigence de l'espace d'intervention tel qu'on voudrait le construire, c'est de faire en sorte que l'on retrouve la possibilité d'être à l'initiative d'actions d'une part, et d'autre part, que ces actions rendent visible la cohérence de la politique de l'ennemi. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pour ça qu'on est assez réservé sur, sur le fait de continuer seulement, en tout cas, les luttes spécialisées, par exemple autour de la précarité. On a été pas mal autour des luttes sur la question de la précarité, là, qui a besoin du collectif. On demande à ces luttes de porter un horizon qui va bien au-delà de ce qu'on énonce de l'intérieur, de ce qu'elles permettent d'énoncer. Mais c'est toujours un peu invocatoire, finalement, parce qu'il y a toujours un décrochage qu'on ne peut pas combler, qu'on n'a jamais su combler, qui peut-être ne peut pas être comblé, entre ce que demande la lutte dans laquelle on est inscrit, que ce soit une lutte spécialisée avec sa continuité propre ou une lutte locale autour de tel événement ou de l'initiative du pouvoir. Et donc il y a un décalage entre ce qui se construit dans la lutte et l'horizon que l'on porte, qui ici on s'entend pour dire que c'est un horizon révolutionnaire. Donc il y a toujours un décrochage entre ce que l'on défend à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, et l'horizon que l'on prétend porter. Et donc nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que essayer de faire en sorte qu'il soit possible que les interventions qu'on construit, et qu'on ne peut pas construire seul en petit comité isolé dans le coin de la France, quoi. Donc on a forcément besoin d'une sorte de réseau de groupes qui portent des initiatives analogues au moins. C'est quelque chose qui à la fois reprennent l'initiative et n'attendent pas forcément des initiatives de l'adversaire, puisque ça c'est ce qu'on a perdu les 30 ou 40 dernières années, la possibilité de prendre l'initiative, et d'autre part que ce soit une politique... disons qu'il n'y ait pas d'écart pour nous entre ce que l'on porte et l'endroit où on intervient. Qu'on intervienne directement à l'endroit où on veut faire exister la ligne de partage entre nous et notre ennemi. Donc c'est pour ça que ce qu'on chercherait à apporter serait quelque chose de l'ordre de lutte qui sont des luttes qu'on dit nous communistes, avec les exigences qui sont attachées à ce terme-là, et qui rendent visible la politique de l'ennemi en tant que telle. Alors ça peut passer, un des objets de la discussion, on va sans doute revenir sur plusieurs autres choses, c'est qu'est-ce que ça pourrait être ces actions-là. C'est pas pour dire qu'on va se proposer là de faire des actions, mais en tout cas, qu'est-ce que ça pourrait être cet espace d'intervention qui n'existe pas à nos yeux, qui fait défaut à nos yeux, quoi, et qu'est-ce que ça pourrait être les actions qui le dessinent, quoi. Pour moi, c'est un peu ça l'objet du... la discussion, bon voilà, peut-être des choses à compléter.
Pour répondre à ta question, moi personnellement, la nécessité de l'organisation, c'est une chose que j'éprouve du fait de l'épuisement, ce que suscite des luttes particulières. Je pense qu'on est nombreux à avoir cette expérience. Aussi formidables et joyeuses qu'elles sont, finissent quand même le plus souvent par des défaites. C'est un constat de faiblesse et d'absence de force. De l'organisation, c'est la construction peut-être d'une force pour affronter cet ennemi dont vous parlez.
Ouais, pareil, moi, je rejoins ce que vous avez dit. Mais, moi, c'est ce qui m'a intéressé, ce qui m'a le plus intéressé du coup, dans le bouquin, c'est aussi du coup ce. Du coup, un peu ce constat d'échec de trucs. Pour moi, aujourd'hui, par exemple, il ne s'agit pas de mettre en place une coordination d'action sur tel sujet ou tel sujet. Ça, il y en a toujours existé. Et il y a des assemblées de chômeurs, de chômeuses de précaires, il y a des gens sur la tôle qui se regroupent, machin, etc., etc. Du coup, pour moi, l'enjeu, il est aussi de structure pérenne. Et pas forcément juste de coordination d'action, parce que ça se fait déjà. Alors, ça se fait pas assez, parce que. Moi, je suis très critique du groupe affinitaire. Je suis devenu de plus en plus critique des groupes affinitaires ces dernières années. Et en tout cas, je partage cette histoire de trucs de structure, de collectif, d'assemblée, je ne sais pas comment on les appelait, de trucs pérennes. Mais du coup, ça veut dire, je pense qu'il faut s'entendre. On ne peut pas être juste sur... C'est compliqué parce que je pense que si on veut un truc pérenne, on ne peut pas être juste sur un... De ciblage d'un ennemi commun. Et je pense que ça veut dire un peu de... Alors, trouver un minimum politique commun. Je ne sais pas s'il peut se faire que par rapport à la distinction d'un ennemi. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Mais ça veut dire poser des bases politiques, de fond, je pense. Et ça, c'est compliqué, mais je pense que l'enjeu, pour moi, il est fondamental.
Bah, c'est le problème de l'idée commune. L'idée commune du projet. Mais qui te projette dans l'horizon dont tu parles, mais qui est un peu... sur lequel il faut réfléchir, mais il est sans doute nécessaire à la construction d'une organisation, ce projet commun, mais c'est, moi j'ai pensé à ça quand vous parliez hier, est-ce que tu parlais que tu disais que il n'y avait pas de métaphysique sur laquelle s'appuyer, mais est-ce que l'idée d'un projet, c'est pas un appel à une chose métaphysique, une projection messianique justement, qui est presque peut-être structurellement nécessaire à la construction d'une organisation. Et du coup, il y a un paradoxe. Il faut la métaphysique pour une organisation, ou pour une idée commune. Donc, il faut construire le lien, enfin, la liaison qui organise, mais c'est peut-être une question métaphysique.
En tout cas, c'est la question entre du rapport entre ce qui est déjà là et ce qui n'y est pas encore, quoi. Pour moi, enfin, j'ai l'impression que pour nous, dans le livre, c'est communisme, c'est une des raisons, il y a plusieurs raisons, on en a donné, on a parlé un peu hier, des gens, d'ailleurs, plusieurs personnes ont parlé des raisons de réutiliser ce terme, mais ce que me semble contenir ce terme, c'est à la fois quelque chose sur lequel insistaient certaines personnes, ce qui évoque tout de suite ce qui se vit à l'intérieur des luttes, mais qui ne s'y réduit pas non plus, c'est-à-dire qui porte aussi une dimension d'horizon, une dimension de... un horizon d'attente, comme dit je ne sais plus qui, un horizon d'attente qui ne se trouve pas dans le déjà-là, et dans le déjà-expérimentable. Donc il y a besoin de la dimension de l'idée, avec la dimension projective qui est attachée à une idée, et le risque pris de tracer des lignes d'horizon, c'est pas tracer un programme, c'est pas tracer une utopie, quoi. Mais le risque pris de s'attacher à une idée avec la dimension projective qu'elle a. Et l'idée communiste, pour nous, elle est aussi essentielle pour ça. Parce que pour les raisons qu'on a données, ce que ça convoque comme alors imaginaire, si on veut, je sais pas si c'est le bon terme, mais d'égalité matérielle, de bouleversement des régimes de l'expérience dans toutes ces dimensions, parce que c'est quand même ça. L'idée communiste, si on se débarrasse de l'État, de l'argent, du travail abstrait, ça veut dire que toutes les dimensions de l'expérience sont redéfinies. L'égalité entre hommes et femmes, par exemple, les questions féministes, pour moi, pour nous, je pense, en gros, elles se posent vraiment de l'intérieur de ce bouleversement des formes de l'expérience. Voilà. Donc, c'est en ce sens que l'idée du communisme, à mon avis, elle n'est pas vouée à l'abstraction utopique, elle est tout à fait... Par contre, on a des imaginaires, certains d'entre nous ont cité là-dessus, c'est des imaginaires tout à fait colonisés qui nous empêchent de projeter au-delà, même à l'intérieur du mouvement révolutionnaire. On n'a pas cessé de nous dire les 30 dernières années qu'il ne fallait pas projeter trop loin parce qu'il ne fallait pas être dans l'utopie, il ne fallait pas être dans l'avant-gardisme, il ne fallait pas être dans tout un tas de choses comme ça. Bon, résultat, on s'est habitué à penser collé aux situations et à jamais rien projeter au-delà. Voilà, ça c'est un gros problème. Donc idée, bon, voilà. C'est ce que tu dis.
Oui, oui.
Qui c'est qui peut faire la révolution ? Vous dites, on est pour l'association. Hein ? L'association. Mais qui est à la base de cette association ? Qui c'est cette association ? C'est une association anonyme. Il y a bien quelque chose. Il y a bien des gens. Et qui c'est qui travaille de manière associée ? C'est les ouvriers, c'est les travailleurs, c'est le prolétariat. 80% dans le monde industriel, 80% des gens sont salariés. Je ne parle pas du prolétariat en bleu de... Hein, on parle du prolétariat en tant que relation avec les salariés, relation avec le travail. Ce sont ceux-là qui sont porteurs déjà de...
Oui, mais ils n'ont pas de forme d'association révolutionnaire.
Voilà. Alors ça, c'est ça qu'il faut créer.
Ben oui,
c'est ça qu'il faut justement mettre en place et créer et discuter et même s'appuyer sur ce qui a été fait, sur ce qui s'est passé. Les conseils ouvriers, c'était vraiment... C'est pas simplement un produit d'une lutte, mais c'est aussi un produit de lutte révolutionnaire. C'est-à-dire, il se projetait comme, justement, voulant transformer la société. La société, pour ne plus, justement, vivre dans une société, comme vous dites, mutilée, qui mutile l'homme, enfin, moi, je resterai aliénant, avec le poids d'idéologie, où vous appelez les médias, la médiation, etc. Bon, pour redéfinir tout ça, mais bon, voilà, je veux dire, c'est, pour moi, c'est, enfin, pour moi, ce sont ces gens-là qui sont porteurs de ce projet. Ce n'est pas le peuple. C'est pas une antinomie anonyme. C'est bien un truc bien spécifique.
Oui. Le problème, c'est que la classe ouvrière, souvent, elle est maintenue par des centrales syndicales, par des bureaucraties syndicales. Et c'est là tout le problème. Au niveau des groupes, là, nous sommes, moi, de ce que je vis, dans les ACP, sans papier ni frontières, etc., etc. Et bon, moi, je ne suis pas d'accord avec, comme il disait d'ailleurs, sur les groupes affinitaires, ni sur un discours informel, qui pour moi ne veut plus rien dire, à la mesure où on perd le discours révolutionnaire. Je veux dire que, et même la relation, la discussion avec les gens, il n'y en a pas. C'est-à-dire que, exemple, on monte au CAF, on va dans une CAF, et les gens nous posent la question. Qui vous êtes? Pourquoi vous faites ça? On répond pas.
Juste coup, parce que ACP, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Bon, c'est l'Assemblée
de la précarisation. Ah,
je n'ai pas dit ça. Non, je ne sais pas si ça
va dans la salle.
Non,
je ne
connaissais pas le site.
Ah bon, excusez-moi. Ah d'accord. Je pensais que c'était généralisé, mais dispersé. Et donc, bon. Et on ne répond pas. Hein, voilà, parce qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas discuter avec eux. Voilà, hein. Et donc, ils disent tout simplement, ben, faites comme nous, on est des amis, faites comme nous. Ça ne veut strictement rien dire pour ces gens. Hein. Un autre exemple, on affichait, hein, après la prise du bateau, hein, qu'il y a eu cet été, hein, là, ils ont bloqué un bateau pour empêcher des expulsions. Donc on a été affiché, donc, ce qui s'est passé dans les centres de rétention, etc. etc. Et on les affiche dans un snack de la plaine, donc on demande au patron s'il veut poser les affiches. Ok, bon, il lit, et puis il dit, vous êtes des humanitaires, pas de réponse. Vous êtes des humanistes, pas de réponse. Voilà, moi, je trouve ça complètement... Là, vous parlez d'impasse, ça c'est une impasse. Il n'y a aucun discours, il n'y a rien. Voilà. Et lorsque vous osez parler de lutte de classe ou de révolutionnaire, de prise de conscience, ce sont des gros mots. Ce sont des gros mots. Donc il ne faut pas dire. Ou encore, lorsque, lors de l'assemblée, là, à l'ACP, on faisait un tract, et une fille, une copine, propose le mot prolétariat. On dit non, pas prolétariat. Je demande pourquoi pas prolétariat, parce que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Bon, alors on met un astérix, on explique pourquoi. Non, pas d'astérix. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça ne veut rien dire. Ce sont des impasses.
Oui, mais justement, c'est assez cohérent, parce que de ne pas pouvoir dire qui tu es, c'est parce que manque cette idée commune dont on parle, qui puisse faire la liaison. Mais cette idée commune n'est pas le prolétariat. Parce que si tu dis que tu es le prolétariat, tu mens. C'est-à-dire que c'est une identité fictive. Ça n'est pas la réalité de ce que tu es. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que nous sommes? On ne sait pas. Et il faut l'inventer pour qu'on puisse dire qui nous sommes. C'est un travail à faire.
Non, mais attendez bien. Moi, je suis désolé, le prolétariat, il existe, sauf que c'est un loupé de prolétariat. Et c'est un prolétariat émietté, éclaté.
Oui, mais il ne suffit pas de le dire et de l'affirmer comme tel pour que ces miettes se rassemblent en quelque chose que tu puisses dire que tu es.
Bon, à condition que le tract que tu vas distribuer, tu en fais le résumé, et que tu expliques aux gens en même temps.
Oui, oui.
Voilà la situation qui sort. Voilà. Et voilà, bon, après, moi je voudrais revenir sur coordination, parce que moi, bon, vous dites qu'on ne peut pas faire des actions de suite, maintenant, etc. Moi je pense que oui, simplement. Moi, je prône le volontarisme, pour être volontariste, hein, comme disait Errico Malatesta. Et par exemple, eh bien, là, cette occasion d'ailleurs, hein, c'est un événement, hein, c'est une critique et à juste titre de l'événement, mais avec Notre-Dame-des-Landes, avec ma foi, voilà quelque chose, mais qui peut se poursuivre en même temps, c'est-à-dire, et puis attaquer Vinci, puisque c'est Vinci. Voilà, là, il me semble que là, nous sommes dans le temple du capitalisme, hein, des temples du capitalisme, et bon, organiser des autoréduits que dans les péages, mais pas simplement une ville, hein, c'est-à-dire prendre contact avec des copains à Lyon, à Paris, dans toutes les villes en France, et en même temps, et le même jour, bam, et deux, trois jours après, et puis deux, trois jours après, faire une manif, le revendiquer, hein, banderole, tract, affiche, d'accord, affichage, et puis faire une assemblée, déjà interpeller les gens, avec une bouffe, par exemple, on analyse une bouffe, et des discussions, et on discute. Alors, bien entendu, ça ne va pas faire la révolution, bien entendu que, parce que, tout simplement, les gens, hein, au fond, ils ne sont pas mécontents du système qu'ils ont objectivé, ils sont mécontents, tout simplement, de sa gestion. Hein. C'est tout simple. Je veux dire qu'ils en sont encore, en quelque sorte, aux tous pourris des années 90. D'accord ? C'est-à-dire tous les politiques sont des pourris. Ok ? Seulement, eux, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent le chef charismatique, celui qui va venir les sauver, au lieu de remettre en question les structures sociales. Justement, ils ne remettent pas en question les structures sociales. C'est là le problème. Et donc, voilà comment sont les gens. Et il est évident que, comme les gens ont objectivé le capitalisme, cette société, qu'ils ne disent pas d'ailleurs capitaliste, ils ont objectivé tout ça. Hein. L'économie, l'économie prend comment dirais-je, le sujet dans toutes ses activités sociales, culturelles, affectives, sexuelles, etc., etc. On est bon, dans la société, donc on peut dire que c'est une idéologie, en dépit de certaines personnes qui disent que le capitalisme n'est pas une idéologie, mais ça devient une idéologie, de toute façon, hein, c'est une idéologie, puisqu'il en sert les gens, et le problème...
On est d'accord, hein, enfin, en gros, je pense que ça pourrait être une bonne idée et tout, mais peut-être on va en parler après. Je pense que c'est mieux si d'autres gens aussi parlent sur la question qu'on pose là de l'organisation, pour essayer de voir si on... Si, bon, par exemple, si on s'accorde là sur... tout à l'heure, il y avait une question sur l'ennemi. Est-ce que ça suffit d'identifier un ennemi pour construire bon, cet espace d'intervention, cet espace organisationnel, etc.
Je découvre le milieu de ce que vous appelez les autonomes. Franchement, avant, je savais que ça existait, mais... Je me rends compte à quel point c'est quelque chose de présent dans la société. La question que je me pose, c'est que ce que vous décrivez, votre polémique et votre souci d'aujourd'hui, c'est un souci qui s'est posé, et là peut-être que je vais me faire incendier par tout le monde, mais qui se pose dans la classe ouvrière depuis à peu près, on va dire, 15 ans. Quels moyens avons-nous quand une lutte éclate, ou quand on n'est pas content et qu'on veut le montrer, pour exprimer de manière autonome notre mécontentement et désigner qui est notre ennemi. Alors, au moment des retraites, en 2009, il y a eu des comités de gens qui venaient de diverses entreprises, EDF, GDF, SNCF, ouvriers métallos dans la région parisienne, qui... On cherchait une solution pour se sortir du carcan syndical, qui, même si en France, apparaît flou et n'existe pas, mais l'identité syndicale, elle est profonde. Les gens suivent les syndicats, c'est vrai. Mais il y a, une volonté de vouloir sortir de ce carcan syndical. Et ces gens-là, ils ont quand même réussi, au moment des manifestations des retraites à Paris, de se regrouper, d'avoir une banderole. À la limite, les retraites, c'est pas tellement notre souci. Nous, c'est l'État qu'on veut attaquer. Ça se passait dans le milieu ouvrier. Alors, le souci que j'ai depuis hier, ce que je vous ai lu et tout, c'est que vous faites beaucoup référence à des luttes qui sont pour moi des luttes importantes, des luttes que le prolétariat lui-même devra intégrer. Des luttes pour la précarité, enfin, des luttes contre la précarité, des luttes pour intégrer aussi le niveau... attaque de la nature, enfin l'écosystème. Et je me demandais quel lien vous avez avec ces gens qui, eux-mêmes, dans leurs conditions d'exploiter, comme tous, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on est précaire qu'on n'est pas exploité, hein, vous le dites aussi à un moment donné, hein, comment vous allez créer des liens pour sortir quelque chose de concret. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que c'est une expérience qu'on a déjà connue en 1986, quand il y a eu des luttes à la suite des coordinations, etc. Oui, oui, il y a des comités de lutte qui ont été créés, avec des chômeurs, avec des travailleurs. Et le constat qu'on a attiré, c'est qu'effectivement, entre deux luttes, eh bien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que la bourgeoisie, le capitalisme, ne nous donne aucune possibilité d'aménager des espaces de rencontre.
Ça, c'est pas eux qui vont le dire.
Alors, oui, non, justement. Mais ça, c'est ce que je dis. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Je veux dire, jusqu'à présent, c'était comme ça. Jusqu'à présent, c'est vrai que le capitalisme a envahi, et l'a envahi avec quelque chose de très sulfureux, la démocratie. Je veux dire, on peut s'exprimer, dire tout ce qu'on veut dans les médias, etc., à condition que tout soit sous contrôle, et surtout, à condition, comment dire, on ne nous donne pas les moyens vraiment. Mais c'est pas quelque chose de regrettable, ni de... Ça fait partie de la difficulté aujourd'hui qu'ont les exploités pour s'attaquer à un système qui est rentré, comme vous le décrivez très bien, jusque dans le plus profond de l'individu. Alors, moi, ce que je salue chez vous, c'est ce souci que vous avez de vouloir essayer de construire une organisation qui serait pérenne dans un système aujourd'hui qui ne nous le permet pas et qui ne nous le permettra jamais. Sauf, et c'est là où je voudrais quand même m'expliquer, par rapport aux années 86, la différence, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé sur les places, avec les Occupy, avec ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Grèce, on sent que quelque part, ce qui se passe ici, c'est un moment politique de la vie du prolétariat et de la vie des exploités. Et que ces moments-là, il faut les rendre, il faut les renouveler, mais je ne suis pas certaine que la création d'une organisation pérenne, soit possible, sauf, le camarade là parlait d'attaquer Vinci. Admettons qu'on soit un groupe déterminé pour attaquer le même jour, la même heure, Vinci. Si les ouvriers eux-mêmes qui sont dans Vinci ne sont pas concernés, je veux dire, ça ira au casse-pipe. Je veux dire, il me semble que c'est évident. Enfin, je sais pas, hein, on aura beau faire des plans, dire ce que tu dis, tel jour, telle heure, allez, on va faire une action commando contre Vinci, attaquer quoi, l'immeuble de Vinci. Mais si les ouvriers eux-mêmes qui sont à l'intérieur de Vinci ne sont pas convaincus que ce que vous faites, c'est aussi... Vous attaquez à l'État, oui, je dis, à quoi ça sert?
Ça va être un échec. La question d'organisation, de constitution d'une force, des actions ne sont plus des échecs, mais des victoires.
Oui. Mais il me faut... Enfin, une organisation... ce que je veux dire, c'est que derrière la création d'une organisation, il faut qu'il y ait une puissance, une volonté. Donc la volonté de quelques individus, à mon avis, ne suffit pas.
Non, mais la question...
C'est bien si on essaie de parler pas trop longtemps et que...
Oui, voilà,
j'ai laissé la parole. Non, parce que là, il y a quatre personnes qui ont parlé. Moi, je voulais juste faire une petite remarque. C'est que là, en fait, on se rend compte qu'il y a il y a le mot communisme qui a l'air étonnamment de nous réunir. Alors, je ne sais pas s'il nous réunit tous là ou si... Mais il y a très peu de polémiques sur est-ce que le mot communisme ou pas, il doit être à reprendre. Ça a l'air d'être assez commun, mais il y a plein de quiproquos sur qu'est-ce que ça veut dire le communisme. Et notamment, on voit là qu'il y a des cultures différentes entre les personnes qui semblent venir de luttes ancrées dans des rapports de travail et des gens qui sont plus dans des luttes qui ne sont pas ancrées dans des rapports de travail et qui sont ceux dont on a pu parler, nous. Et c'est sûr qu'on ne va pas faire la révolution sans... sans la masse des personnes qui sont salariées. J'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus... Enfin, moi, ça me dérange assez de partir de là et de rester sur le mot prolétariat, par exemple. Parce que prolétariat, ça appelle vraiment à une culture qui est ancrée dans le rapport de travail. Et que c'est vraiment pas que le rapport de travail qui nous mutile dans le rapport au capitalisme. Continuer à centrer vraiment sur le travail et reprendre la figure du prolétariat, ça me semble au moins à déplacer, quoi. Je sais pas ce qu'on pense, mais j'ai l'impression que c'est, en tout cas, qu'il y a bien quelque chose à comprendre là entre ces deux cultures du communisme qui s'ancrent sur le travail ou pas, et qu'il y a quelque chose à relier là, je sais pas. Voilà.
Le fait d'opposer le rapport de travail avec des luttes qui seraient partielles, voilà. Pour moi, toutes les luttes dans lesquelles on dit partielles et dans lesquelles on intervient, qui sont peut-être périphériques au rapport de travail, toutes elles s'y rapportent. Toutes elles sont empreintes de ce rapport-là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut poser ce rapport-là comme le seul ancrage dans ces luttes-là. Il faut arriver peu à peu à décaler ces luttes-là sur ce rapport-là. Mais dans la manière dont on s'inscrit dans une lutte, on ne peut pas poser en arrivant la seule chose qu'on a à traiter ici, c'est le rapport au travail. Mais si on parle de, je ne sais pas moi, d'un collectif, le collectif de précaires, je crois que c'est assez clair quand même que c'est un rapport au travail, à la gestion de la main-d'œuvre. Je crois que sur les collectifs sans papiers de frontières, par exemple, ou enfin, en tout cas contre les frontières, contre les centres de rétention, c'est une question de gestion de main-d'œuvre. Et donc d'un rapport capitaliste, d'un rapport au travail, bah, je crois que sur tout, si on peut passer en revue toutes les luttes, il y a tout le temps un rapport au travail. Sauf qu'il n'est pas évident.
Notre-Dame-des-Landes.
Bah, par rapport à Notre-Dame-des-Landes, je pense que le rapport au travail, et d'ailleurs le film qu'on a projeté la semaine dernière à Mimabor, il montre un petit peu ça. Le rapport au travail, il se trouve dans... Il y a une dame qui habite là-bas, qui est, je pense, agricultrice, qui dit, moi, on m'a dit, ces gens-là sont arrivés, on m'a dit, là, c'est des fainéants, c'est des terroristes. Bon, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Aujourd'hui, tous les mardis, ils m'apportent des tomates, ils m'apportent des trucs. Ils ont fait leur vie ici, ils ont fait vivre ce lieu. Ça, pour moi, c'est changer leur rapport au travail. C'est modifier, donc, par la sortie à un moment donné du salariat. Je dis pas que c'est la seule manière de faire, quoi, que d'aller faire de toute communauté à droite à gauche. Je dis pas ça, absolument pas. Mais je crois que là aussi, là, dans ce lutte-là, il y a un rapport à comment on produit et comment on s'inscrit dans le rapport au travail. Et comment on arrive à discuter autour de ça.
Tu complètes une question, c'est... Comment t'inscris justement les féministes dans ce rapport au travail?
Alors pour moi, c'est un peu la question... Enfin, j'étais pas trop d'accord tout à l'heure sur... je pense qu'effectivement, redéfinir notre rapport dans un rapport autre que celui de domination capitaliste va, quelque part, poser les questions de redéfinir le rapport de domination de genre. Après, je pense pas que nécessairement et obligatoirement une révolution, l'abandon du rapport de domination capitaliste provoque l'abandon du rapport de domination de genre. Et,
révolution communiste, oui.
je voulais juste dire que ce qui m'intéresse en fait dans cette rencontre et dans ce texte, c'est la question de la reprise de l'initiative. Je pense que ça, c'est l'enjeu, quoi. Comment on reprend l'initiative et qu'on ne soit pas effectivement uniquement dans la lutte réactive. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la proposition de composer avec des cultures différentes. Donc si, à mon avis, on cherche à essayer de faire converger toutes les cultures vers un même mot, on ne va pas s'en sortir. Mais plutôt de garder cette hétérogénéité des cultures différentes. Mais ça veut dire, par contre, on doit s'accorder sur une chose, sur la question de l'ennemi. Quel est donc cet ennemi ? Et cette question de l'ennemi, à mon avis, par contre, là, il faut qu'on le précise. Et tout à l'heure, Pierre parlait de la question de la cartographie. Cartographier cet ennemi, mieux en saisir ses contours, je pense que ça, c'est l'enjeu, à mon avis. Et de s'entendre sur l'ennemi
de bien le délimiter. Pour moi, il me paraît plus important que s'entendre, d'essayer de converger nos...
C'est par ailleurs ce que fait l'ennemi sur nous.
Bah oui, l'ennemi, c'est très bien de faire sur nous.
Exactement. Et donc, je pense que l'enjeu, il est plutôt là. Donc, pas tant c'est quoi, c'est quoi le vrai rapport, il est où, le vrai rapport d'exploitation, il est où. Je pense que c'est pas ça la question. La question, c'est où, qui est l'ennemi, où on peut le frapper, et à partir de là, on peut, par rapport à des cultures différentes, composer et mener des actions simultanées à des endroits différents, mais autour d'un même mot d'ordre. Donc, je pense que, et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans cette proposition du manifeste. Et donc, ça veut dire aussi, comme on a ce moment-là, et je pense comme d'autres moments qu'il faudra avoir, accepter des moments où on se retire, d'une certaine manière, des interventions qu'on a, par ailleurs, c'est-à-dire des luttes d'urgence, trouver un moment de retrait, avoir cette discussion, pour retourner à l'intervention, mais du coup, une intervention renouvelée, c'est-à-dire avec une nouvelle forme. Mais pour trouver cette nouvelle forme, il faut bien qu'à un moment donné, on précise où est l'ennemi, ce qu'il est, où il commence, où il s'arrête, d'une certaine manière. Donc la proposition, moi, les militants de l'économie, j'aimerais qu'on la travaille plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Où ça commence? Où ça s'arrête? Qu'est-ce que ça contient?
Voilà, du coup, alors, je vais répondre aux deux, trois dernières... Enfin, pas répondre, mais amener un truc. Je pense que la proposition, c'est le truc, c'est... À la fois, moi, je pense... Mais quelqu'un a commencé à l'interroger. Je pense que le patriarcat, il n'est pas réductible à du tout un rapport de travail, et on ne peut pas l'analyser. Il y en a qui l'ont fait, mais sur l'angle de la division, ce qu'elles ont appelé la division sexuée du travail, je ne pense pas qu'on puisse résumer le patriarcat sous cet aspect-là.
Ouais, je pense qu'on est un peu trop en phase là-dessus.
Et du coup, alors si on est sur l'histoire de l'ennemi, par rapport au patriarcat, l'ennemi, il est où? Enfin, je pense que je suis pas sûr qu'il soit réductible à... ce que je trouve hyper intéressant sur la question du capitalisme, c'est-à-dire sur les militants de l'économie, mais je pense sur la question du patriarcat, je pense que peut-être ça s'interroge de façon différente. Si on est, et je me place sur la question du patriarcat en termes de rapport de pression de classe entre la classe des hommes et la classe des femmes, pour faire...
Non, moi, en écoutant tout ça, je me dis, mais qui est notre ennemi? Il n'y a pas nos ennemis, il y a un ennemi, c'est le capitalisme. Le capitalisme avec à sa tête l'État. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui a et dans cet État, il y a bien sûr, il y a les capitalistes, il y a le gouvernement, il y a les syndicats. Soyons clairs là-dessus. Il y a tout ça. Donc il faut, quand on désigne un ennemi, il ne faut pas se disperser. Il y a bien un ennemi qui est frontal, c'est l'État. Quand on va dire dans la rue manifester, on a vu en Espagne, les mineurs sont descendus dans la rue, il y a eu solidarité. Qui c'est qu'on trouve en face? L'État qui tire avec des balles de caoutchouc sur des enfants et des femmes. En Grèce, c'est la même chose. C'est l'État qui réprime. Voilà, Vinci ou pas, je n'ai rien à tirer. C'est l'État qui réprime. Donc c'est lui qui vraiment est là pour garantir l'ordre social par la répression. Aujourd'hui, on est confronté à la répression. Il ne faut pas se raconter l'histoire.
Hein. Ouais. Moi, je vais reprendre un peu sur les trucs de Manu. C'était ce que je trouvais très intéressant, c'était de prendre un temps pour reprendre la main en fin d'initiative. Parce que de mon grand âge, de tout ce que j'ai vu, en fait, c'était des luttes de défense. Il n'y a jamais eu de lutte offensive contre le fait. Et c'est hyper démoralisateur dans un premier temps. Et ça, vous le dites un peu aussi, on a tendance à courir de lutte en lutte, de soutien en soutien, et jamais à prendre le temps de la coupe pour essayer d'avoir une action, taper là où c'est très normal et pas être juste sur la violence. Donc ça, c'est le premier point. C'est super intéressant de vous poser. Le deuxième point, là où je ne suis pas vraiment d'accord avec Manu, où je diverge, c'est par la définition de l'ennemi, la ligne de partage, mais en se mettant sur le truc. Sur le plan économique, parce que vous le dites vous-même, c'est tellement diffus, c'est tellement dans tous les strates de notre existence que ça devient un truc hyper compliqué de désigner l'ennemi, vu qu'une grande partie de nous-mêmes, de nos comportements, en fait partie. Et on avait eu cette discussion à un moment donné, il y a un an et demi, à la Pivalie, je ne sais pas si c'est là, on essayait de se dire c'est quoi le prolétariat? Qui est dans le prolétariat, qui est pas dans le prolétariat. Et alors, on a discuté pendant 2 heures, et en fait, on s'est rendu compte que même le patron qui a un crédit sur dos, même l'agriculteur qui a un crédit sur dos, en fait, il bosse pour une banque. On va dire, ouais, ok, c'est le patron, mais non, en fait, il bosse pour une banque. Donc, l'un dans l'autre, apparemment, prendre les grands patrons, les grands groupes, ça va s'identifier. Tout le reste, en fait, c'est complètement évident. Et moi, je j'arrive difficilement à tracer une ligne de partage, un front effectif. Là où ça devient clair et apparent, c'est là que je rejoins Albert, c'est quand l'État aligne 150 Robocop.
Ouais,
le rapport, il est clair, quoi. Il est apparent. Il y a la ligne qui se crée, quoi. Il y a la ligne qui se crée à ce moment donné.
Ouais.
Donc le Robocop, il peut être devant Vinci ou d'autres, mais c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment qui est de quel côté de la barrière. Et donc du coup, moi, l'ennemi désigné à attaquer en premier, ça serait du coup l'outil du capital, ça serait l'État, ça c'est un premier truc. Et je pensais à un deuxième truc quand on parlait d'écologie, peut-être, ça, je sais pas, c'est de désigner le pollueur, en fait. Par les ravages écologiques qu'on peut montrer, c'est facile à voir. Alors, qui fait quoi, qui détruit réellement le merdier de l'écosystème, ainsi par tout l'éolien et tout ça, c'est apparent, c'est très visible. Je pense que c'est un autre axe, en plus, en reconnectant avec l'écologie, pour montrer cette ligne de front, pour dire, voilà, il y a ceux qui polluent et ceux qui font chier. Et puis il y a les autres qui peut-être polluent indirectement, mais pas de façon aussi dégueulasse et violente que le capital, du coup. Voilà.
En fait, moi, je trouve que c'est dangereux d'essayer de personnifier l'ennemi, en fait. L'ennemi, c'est le capitalisme. Il faut détruire le capitalisme, et c'est voilà. Et quand il y aura la lutte, c'est la lutte qui va déterminer qui est contre le capitalisme, qui est communiste et qui est contre le révolutionnaire. Maintenant, on ne peut pas dire. Il pourrait y avoir des bourgeois aujourd'hui qui seront communistes demain. Ça, c'est arrivé dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle des déserteurs de classe. Et donc, pour moi, je trouve que ce qui est intéressant maintenant, c'est de dire ce qu'on aime, nous. C'est pas de dire ce. En fait, on peut se distinguer par rapport. Surtout aux partis politiques, en fait. Je pense qu'il faut définir vraiment nos positions. C'est pas de dire. C'est de dire qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux autres. Voilà.
Je voudrais qu'on précise. J'aimerais que vous précisiez qu'est-ce que vous entendez par militant d'économie. Et qu'on s'entende bien sur ce que vous entendez par économie. Vous dites que l'économie, c'est la politique du capital. Mais qu'on s'entende à quoi vous réduisez le mot économie ou où vous l'amenez. Et moi, je crois entendre aussi que quand vous entendez l'économie comme étant la politique du capital, et que vous différenciez les militants d'économie des sujets de l'économie, c'est que vous précisez bien que c'est une politique en tant qu'elle est une conduite sur des formes de vie. Et que donc, ce n'est pas uniquement l'économie stricto sensu de la science économique, mais c'est aussi une politique qui agit sur les formes de vie. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on peut penser la question du patriarcat, par exemple, et la question des militants de l'économie. C'est-à-dire comment, à un moment donné, les militants de l'économie sont des ennemis du patriarcat, dans la mesure où l'économie comme politique, c'est quelque chose qui agit et qui conduit les formes de vie. Donc moi, j'aimerais que ce soit... C'est une question que je vous adresse, là. Comment vous pouviez, si c'est possible, de le préciser, car dans le manifeste, je pense que c'est, à mon avis, pas assez clair. Ça va un peu trop vite sur ce que vous entendez par militant de l'économie et sur ce qu'est l'économie comme politique du capital.
Moi, je voulais juste... Il y a un truc avec le comité où ça soulève deux questions qui vont sûrement paraître ancrées dans un pessimisme profond par rapport à ça, mais c'est d'une part se dire que le comité, en tant que structure balisée politique, cloisonne préalablement, quasiment à l'initiative, les possibilités de rencontre. C'est peut-être parce que justement il faut chercher la forme de qu'est-ce qu'est le comité. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais en tant que mot ou juste balancé comme ça, ça ferait un peu comme ici, ça veut dire retrouver une espèce de l'ensemble des militants marseillais habituels et qui pourraient se retrouver dans une nouvelle forme et avec le même allant qu'on pourrait avoir relativement dépressif. voilà, ça, à travers le comité, et du coup se dire tiens, ah non, c'est pas dire la rencontre, elle s'opère ailleurs. C'est-à-dire que généralement, elle s'opère soit dans un fer, dans un partage du fer, que ce soit, du cidre au jardin collectif, du jardin collectif au Baletti, quoi. Genre, tu vois, sur un... Et c'est là que s'opèrent des rencontres, c'est là que naît du politique, et c'est là qu'après s'entraînent des choses, des discussions, etc. Voilà, c'est de dire, tiens, le comité n'est pas une... Voilà, comité structure politique pose un problème. Et la le deuxième truc, c'était le truc que tu disais au tout début, je crois, c'est le comité, alors, qui serait dans un lien en plusieurs villes, poser la question de la visibilité. Alors cette question-là de la visibilité, elle est relativement intéressante dans la période où on est. Ça veut dire que effectivement, ça entraîne la réflexion sur comment on est rejoignable, quelle part on affiche de rejoignable. Mais la visibilité, pour être, j'ai l'impression que pour prendre force, pour être, pour prendre puissance, elle doit aussi avoir son autre pendant qui serait l'opacité. Parce que sinon, on répond juste à la structure visible imposée en ce moment. Par la métropole, l'hôpital, comme on veut l'appeler. Voilà. C'était deux réflexions sur le comité. Et du coup, et l'Assemblée, alors l'Assemblée, parce que comme ça je finis un peu toutes les idées. Là, moi, je suis ce que tu disais tout à l'heure sur le côté de recroire à l'Assemblée. Oui, j'ai l'impression que c'est reprendre la croyance en l'Assemblée et pas de fait aller aux assemblées déjà en reculant et machin. Mais par contre, ça serait de redéfinir quel est ce qu'on projette dans l'Assemblée et qui pour moi serait moins d'arriver à des assemblées décisionnelles, c'est-à-dire avec un pouvoir décisionnel, que une faculté de l'Assemblée à apprendre à se parler. Et trouver là-dedans définir les moyens de se parler, définir les mots, une sémantique commune.
Voilà. Non, mais juste alors sur l'économie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont. Bon, il y a des désaccords, mais c'est toujours intéressant. Mais le problème, c'est le temps. On peut pas déplier tout ce qui s'est posé. Là, on restera toujours un peu avec beaucoup de trucs pliés, par exemple sur la question du travail. De partir du rapport de travail, associer la figure ouvrière à la question de l'extension du temps de travail et de la porosité entre temps de travail et temps de non-travail, de sorte que là, nous on s'accorde un peu sur cette idée qu'il y a une redéfinition du travail qui fait qu'on ne peut plus assigner un temps de travail précis. Il y a donc ces mutations-là. D'où est-ce que la figure ouvrière, ça cerne le rapport de travail? Est-ce que le rapport de travail cerne ce qui se joue dans l'économie capitaliste? Voilà. Dans ces deux questions, on répond non. Donc il y a un désaccord, mais c'est pas forcément un désaccord dans l'horizon politique qu'on peut porter, qui pourrait être porté en commun. C'est vraiment sur des analyses, et ça a forcément des implications à des moments, mais ça n'empêche pas l'élément de composition, et sans doute tu vas y revenir tout à l'heure. Pour nous, de toute façon, il y a deux choses. Travail politique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire travail d'intervention, et le rejet du surmoi, un peu de l'injonction activiste, ça veut pas dire qu'on renie le primat de l'intervention. Il y a un primat de l'intervention à tenir. Si on construit quelque chose politiquement, il faut penser des interventions. Pas forcément tout de suite coller là, maintenant, en situation, mais il faut bien concevoir quelque chose qui nous donne une capacité, une puissance d'intervention. Bon, ça me paraît vraiment très important, ce qu'on a dit sur l'initiative, quoi. Mais il y a ce travail d'intervention et il y a un travail de composition. Et pour moi, le travail politique... C'est qui d'ailleurs en ce moment on est beaucoup plus dans le de fait vu la faible force qu'on est nous on est beaucoup plus dans le travail de composition politique que dans le travail et dans la capacité, la puissance d'intervention pour le moment, quoi. Mais c'est bien avec l'horizon, on n'est pas non plus à se dire l'intervention ça viendra quand les conditions seront réunies, parce que ça c'est l'imposture militante dont on n'a jamais voulu. Bon, mais ça c'est donc juste un point alors sur l'économie j'avais une discussion, il n'est pas là, Pedro. Bon. Vous employez économie, c'est vraiment bizarre quand vous employez le terme économie, parce que l'économie, tout le monde sait bien qu'il y en avait, Aristote en parlait dans la Grèce antique, etc. On peut faire toutes les généalogies qu'on veut. Une des façons d'identifier le système capitaliste, c'est quand même de dire que c'est le seul système, la seule politique qui gouverne ces sujets. À partir non pas de l'invocation de quelques transcendances qui ont à voir avec du divin ou avec des entités comme ça, mais seulement à partir de ce que les gens qui ont analysé le capitalisme plus ou moins en profondeur à partir de Marx ont appelé les abstractions réalisées, que sont l'argent, la valeur, le travail, etc. Donc le capitalisme, c'est le système qui repose sur des fausses transcendances, et ça se traduit très concrètement dans l'idée que comment on conduit les vies, comment on arrive à gouverner les conduites de vie aujourd'hui, tout simplement, c'est pas récent, et ça prend seulement des formes différentes au fil de l'histoire du capitalisme, En inculquant pas seulement l'idée abstraite, mais les dispositions matérielles qui font que l'économie, ça s'impose comme un ensemble de lois, ça s'impose comme un système de contraintes par rapport auquel on n'a pas de prise. Donc c'est pour ça qu'on conteste dès le départ l'idée que ce serait qu'il y aurait un système économique et que l'économie, ça désignerait un invariant historique, que seulement les modes de production changeraient au fil du temps. En fait, c'est une opération politique. Et c'est ça qu'on veut attaquer, nous, cette opération politique qui fait que on est habitué à penser qu'il y a un système de contraintes, un système qui a ses lois et ses nécessités propres, et à partir duquel et sur lequel on n'a aucune prise. Donc la politique dont on parle, nous, celle qu'on veut construire, c'est celle qui s'oppose à la diffusion de cette évidence-là. Et les militants de l'économie à partir de là... Alors, tu vois, je vois très bien ce que... Je suis en partie d'accord avec ce que tu dis, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on a un peu trop... On s'est un peu trop dit à des moments que notre ennemi, c'était pas des gens réels et que c'était un système, etc. Moi, j'ai de plus en plus envie de dire que, enfin, en inversant c'est l'ennemi, c'est pas seulement un rapport qui nous tient, c'est aussi quelqu'un qui nous fait face, quoi. C'est aussi des gens qui nous font face et ce qui occupe des instances qui mettent, qui concrétisent le système de contraintes supposé inébranlable, supposé quasi naturalisé. Qui doit s'imposer partout avec la même évidence et sur lequel on est censé ne pas avoir de prise. Et si on le conteste, on est censé être utopiste, irréaliste, etc., etc. Et moi, je pense que militant de l'économie, ça nomme des personnes tout à fait concrètes et tout à fait désignables, et pas seulement en situation, parce qu'en situation, on trouve effectivement toujours l'État et la police. Alors l'État cristallisé dans la figure de la police, mais je pense que l'ennemi, c'est pas seulement cette figure-là, justement, et que ce serait intéressant d'attaquer, on parlait des schémas de Marc Lombardi, il y a des cartographies qui sont faites, des réseaux, des liens entre les hommes de pouvoir, les telles multinationales, telles filiales, etc. Bon, c'est ça aussi qu'il nous faut attaquer, à cet endroit-là. Enfin, ce serait ça la visée qu'on aurait, pouvoir frapper à cet endroit-là.